culture, cultura.
Bonjour et bienvenue à cette première édition de Fréquence Banane Live à Uni Dufour pour le festival Histoire et Cité. Nous sommes en live et nous saluons tous nos auditeurs, autant ceux qui sont assis avec nous que ceux qui nous écoutent sur les ondes. Cette émission aura lieu aujourd'hui, demain et vendredi à 17h dans le hall de Uni Dufour et venez nous rejoindre nombreux. On va commencer avec une petite chronique de Lucien, qui n'est pas une chronique en fait. Il va nous présenter un projet qu'il a fait. Donc déjà, comment s'intitule ton projet ?
Et déjà, première chose, bonjour à tous et à tous. Merci Stan de m'avoir invité pour présenter ce projet qui se prénomme Prélude au lendemain, qui est un projet musical que j'ai composé en 2018 avec un ami dans le cadre des travaux de maturité au collège pour les jeunes voix qui nous écoutent. Et puis, quand tu m'as proposé de venir aujourd'hui, j'ai directement pensé à ce projet parce que c'est une œuvre qui se veut cinématographique. Et qui raconte, qui est axé autour de l'histoire, de la cité, et plus particulièrement du thème qui nous occupe ces prochains jours, les invisibles.
Super. Alors ce projet, tu m'as dit que tu l'as fait dans le cadre de ton travail de maturité, donc c'est un projet qui mature, excuse-moi de la blague, depuis un moment. Je ne sais pas exactement quand tu as fini ton travail de maturité, quand tu l'as fait. Mais donc ça se présente comment ?
Ah, c'est une pièce en fait. L'idée était de mettre en musique l'atmosphère de notre cité à nous, en tant que résident et né à Genève, et de raconter la cité d'une manière onirique, d'une manière poétique, à travers du son, de la musique. Et puis, c'est un projet qui voulait vraiment aller plus loin qu'un album musical, ou qu'une pièce, ou qu'une histoire. Et dans son élaboration, en fait, on a vraiment eu envie de prendre corps dans la cité. Et tout notre travail est basé sur un parcours de deux entités invisibles, qui se balade à travers une cité qui se trouve être Genève. On est censé le découvrir si on connaît un peu notre ville, avec les références aux mouettes, aux trams et à tous ces objets qu'on connaît bien. Et puis cette posture de deux invisibles, deux voyageurs qui débarquent sur Terre et qui vont découvrir avec une espèce de jugement lointain les habitants, dont les invisibles.
Super. Alors tu m'as dit, on a un petit extrait de cela qui s'appelle Prélude au lendemain. On va l'écouter histoire de se faire une meilleure idée de quoi parle ce projet.
Si je peux l'introduire.
Alors oui, évidemment, excusez-moi.
Car il s'introduit finalement comme une scène de cinéma. Le morceau se prénomme Aquarium. Les rues sont silencieuses dans la nuit noire. Tout le monde est rentré chez soi ou presque. Une bête rôde. Son parcours le mènera jusqu'à la terrasse d'un bar.
La lumière brille derrière les vitres, les rangées de lampadaires s'allument, les ruelles luisent d'une lueur orangée, en un silence où vivre semble dérangé. Tous les appartements brillent, ou presque. La pluie aux fenêtres glisse en fines gouttelettes, le sol est encore trempé, quelque part quelques pas traversent les flaques et passent du goudron au plancher. Dernier rentre vite, et puis la ville semble vide. Les ombres règnent, le ciel est noir. Pénombre épaisse qui cache secrète extase. Sombre, le sol devient l'espace. Trompe les sens, réel s'efface. Songe embrasse les êtres épars, s'y plonge. S'égare dans les ténèbres des âges. Le ciel noir se réclame. Lorsque le soleil s'écarte, alors le sommeil se déclare. Mais les étoiles épargnent certains, se promènent dans l'air froid, suivent les promesses du soir, jusqu'au matin. Entre les poubelles, un animal s'agite. Il grogne, se racle la gorge, rumine. Son corps maigre se recroqueville sur lui-même, se serre. L'air est glacial, la nuit humide. un froid de canard, une faim de loup et l'animal en devient fou. Il aboie, s'étouffe, sa voix s'écroule, il se roule de côté, renifle un peu par-ci par-là et se redresse lentement. Appuie son dos courbé au mur bien droit et ses poils se lèvent dans le vent. Créature de l'ombre, de la nuit noire, si bien qu'il se mêle aux rues et s'y confond en y traînant. Il y a des trous dans ses pensées, dans sa mémoire, comme dans le cuir de ses chaussures ou le coton de ses vêtements. Bête en chasse, il rôde sur le béton froid et c'est en cela qu'il est semblable au serpent mâle. Il est vrai qu'il importune ou qu'il effraie les promeneurs nocturnes profitant de l'air frais. De par son allure crasseuse, son haleine vaseuse et son sourire doré, les pas s'en prennent la fâcheuse habitude de l'ignorer. Pourtant la bête est pareille qu'eux, pas moins bête et pas moins paresseuse. Alors elle marche encore et porte sa fierté, et puis s'arrête aux tables externes d'un bâtiment où les gens semblent s'agiter. Dehors ça sent la fumée rance et ça discute. Dedans l'alcool en exubérant, c'est la dispute.
Excusez-moi.
Les faces se retournent, la défigurent.
Soyez pas un peu.
Non, désolé.
Et elle s'en va, frottant son crâne hirsute.
Incroyable. En tout cas, quand tu parlais de Nyrik, ça c'est le cas de le dire.
Voilà, ça c'est un extrait qui était censé donner de la visibilité aux invisibles et qui était le but de tout ce travail, qui arrivera un jour sur scène. Après avoir parlé de la cité, on y prendra corps et j'espère un jour qu'on jouera cette pièce sur scène. Et puis, une dernière chose pour conclure, faire une petite aparté concernant le cinéma, on a été très très largement inspiré d'un film qui s'appelle Les ailes du désir, sorti en 87, et qui parle de deux anges qui observent la rue, la ville et sa vie. Voilà tout.
Super. Bah, en tout cas, on a extrêmement hâte de voir ce projet-là. J'espère qu'une fois qu'il sera monté, tu croises les doigts pour tous nos auditeurs sur les ondes. Une fois qu'il sera monté, j'espère que tu nous le présenteras et tu nous inviteras à la première.
Je reviendrai.
Super. Alors à ce moment-là, on va inviter notre prochain invité, Vincent Fontana, sur scène. Je vous laisse. Alors je te demanderai juste, Lucien, de lui passer ton micro. Malheureusement, on a une limite de micro. Alors, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette petite interview. Je vais te présenter quand même un peu brièvement. Donc, Vincent Fontana, tu as fait tes études à l'Université de Genève, si je ne me trompe pas. Tu me diras si je me trompe, parce que j'ai vu que tu as présenté ta thèse ici même, donc dans notre université, sur l'enquête pénale et les pratiques de police judiciaire pendant les périodes révolutionnaires et impériales. Super intéressant comme sujet, en tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de le lire. Mais surtout, maintenant, tu es directeur du musée d'Yverdon. Alors, la première question que j'avais posée, à part si j'ai dit des bêtises.
Non, c'est juste.
C'est tout juste, parfait. Alors, tout d'abord, je voulais qu'on revienne un peu, parce que hier, tu as guidé, en fait, tu as fait une visite guidée à travers la vieille ville, qui s'est remplie extrêmement vite. Donc malheureusement, Pierre et moi, on était intéressés, Pierre qui participera à l'interview juste après, on était super intéressés, mais ça s'est rempli trop vite, donc on n'a pas pu participer, et je voulais savoir si tu pourrais revenir un peu sur un temps fort, quelque chose comme ça, histoire que tous ceux qui ont manqué puissent un peu vivre l'expérience.
Oui, merci pour l'invitation déjà. La visite d'hier, effectivement, le cas des invisibles, c'était une visite qui était consacrée au bas-fond, avec des guillemets, de la Genève française, de la Genève au moment où c'est occupé par les armées napoléoniennes, pour le dire un peu vite, 1798-1814. Alors c'est un peu aguicheur de parler des bas-fonds. En fait, c'est un terme qui a été beaucoup défini par un historien qui s'appelle Dominique Khalifa, dans un livre qui s'appelle Les Bas-fonds, qui est un très bon livre, qui montre que c'est quand même un terme un peu imaginaire. C'est une topographie complètement journalistique, policière. Il n'y a pas vraiment de quartier qui est dédié au crime, en tout cas pas spécifiquement au crime. Par contre, ce que je voulais montrer dans la visite hier, ce qu'on a essayé de faire tous ensemble, c'était de montrer que pendant l'occupation napoléonienne, avec essentiellement à cause de l'investissement militaire de la ville, puisque ça devient une ville de garnison avec 3000 hommes qui sont incasernés dans les murs, et bien la ville rencontre une nouvelle forme de criminalité. Et là c'est très clair qu'il y a des phénomènes que la ville d'Ancien Régime ne connaissait pas, notamment la prostitution endémique, notamment les tripots de jeux clandestins, notamment les débits de boissons clandestins, et puis aussi la contrebande, le faux monnayage qui existait sous l'Ancien Régime mais qui devenait beaucoup plus fort. Donc voilà, la visite en fait tendait à essayer de montrer comment dans la ville ces nouveaux phénomènes criminels qui sont induits par l'armée essentiellement, mais aussi par la période disons assez difficile de Napoléon, eh bien s'inscrivent dans la ville au niveau topographique.
Ok, c'est et moi je me demandais comment est-ce que tu prépares une telle visite. C'est peut-être une question un peu compliquée, mais d'un point de vue de la recherche des sources...
Non, c'est extrêmement simple. Je vous avoue que ça fait quand même 10 ans, même plutôt 15 ans que je travaille sur ce sujet. Ma thèse donc, qui portait sur l'enquête, elle fait l'objet d'un livre qui s'appelle « Éclairer le crime ». Et dans le livre, il y a quand même beaucoup d'histoires urbaines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questionnements sur comment la ville est policée, comment la ville est réglementée, mais aussi comment la ville est investie par les nouveaux phénomènes criminels, notamment la contrebande, mais aussi la criminalité organisée, essentiellement ce qu'on appelle la filouterie, le brigandage. Et donc, si vous voulez, c'est des choses évidemment que j'avais tellement traitées dans mon livre que ce qui est plus compliqué, c'est de les résumer dans un espace, disons, de médiation qui est celui d'une visite en une heure. C'est assez court. Donc, j'ai choisi des lieux qui existent encore. Il y en a très, très peu. Mais en fait, j'ai surtout choisi des bâtiments administratifs où il y avait effectivement, par exemple, le commissaire spécial qui a créé une espèce de réseau d'agents secrets. Et puis, on a travaillé un peu autour de ces endroits-là. Mais ce qui est plus difficile, c'est de trouver un format de discussion qui plaise à tout le monde, qui soit accessible à tous les publics. Et ça, je pense que le Festival d'Histoire et Cité nous oblige à réfléchir à comment transmettre ce savoir différemment.
Super. Et moi, j'ai lu la description dans le programme de la visite. Et il y a quand même quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'était l'idée d'officine d'espion. Alors je ne sais pas si finalement tu en as parlé hier, est-ce que tu es allé voir un haut lieu de l'espionnage à Genève, mais dans tous les cas, pour tous nos auditeurs, je pense qu'ils se posent tous la même question, à quoi ressemble James Bond dans le Premier Empire, en soit en Europe, généralement à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est vraiment ton sujet ou pas, mais...
Oui, alors le James Bond de Napoléon, ce n'est pas le même. Il n'y a pas de permis de tuer pour les espions sous cette période-là. C'est une tarte à la crème, l'espionnage sous la période napoléonienne, avec un grand personnage qui est le ministre de la police générale, qui s'appelle Fouché. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui. Et du coup, il y a beaucoup de légendes autour de ce personnage qui auraient créé des officines partout, très centralisées, extrêmement professionnelles. Donc dans mon travail, j'essaie de montrer que ça existe à Genève, particulièrement peut-être à Genève parce que c'est une ville stratégique, une ville frontière, une ville très riche, une ville avec beaucoup d'opposants. Mais par contre, c'est des réseaux qui sont assez peu institutionnalisés, assez peu centralisés, qui sont très bien implantés dans les milieux criminels. On a beaucoup, par exemple, d'anciens fondeurs, on a beaucoup de domestiques qui sont documentés, on a des faux monnayeurs. Mais voilà, il n'y a pas de James Bond, il n'y a pas d'individu qui émerge comme ça avec un aura charismatique, il n'y a pas de coup d'éclat, il y a très très peu de combats. Enfin, c'est surtout des agents qui donnent des informations, il n'y a pas d'opération, si vous voulez. En fait, il y en a, mais il y en a très très peu.
Donc ce serait plus de la police politique que réellement un espion, comme on s'imagine l'espion au XXe siècle.
Techniquement, c'est plus ce qu'on appellerait du renseignement. Ensuite, l'usage de ce renseignement est à la fois politique, mais aussi de droit commun aux polices judiciaires. Donc si vous voulez, la pratique de ces agents, c'est de collecter de l'information, puis ensuite l'information est soit utilisée à des fins politiques, pour identifier par exemple des opposants ou des gens qui auraient des attitudes subversives, ou par les tribunaux, les procureurs, les parquets pour procéder à des enquêtes ou des poursuites pénales.
Ok. Alors je vais passer la parole à Pierre qui va te poser plus de questions sur le sujet de ton travail ces temps-ci, donc c'est l'imaginaire de la peur au cinéma.
Voilà, et on s'est dit que c'était le moyen de faire aussi l'articulation avec la thématique du festival. Et d'abord, on s'est un petit peu demandé avec Stan comment tu étais arrivé à publier de nombreux articles et une thèse sur l'histoire judiciaire criminelle et de passer à l'imaginaire de la peur au cinéma. Comment t'es arrivé là-dessus? Est-ce que c'est juste un changement de cap?
Je m'attendais à cette question, mais je n'ai pas préparé la réponse. Pendant la durée de mon doctorat, c'est vrai qu'on avait un hobby, une passion avec mon directeur de thèse qui est Michel Porret, c'était d'aller regarder des films, tout simplement. Et puis, on a aussi une passion pour le cinéma populaire des années 50-60 autour de la figure du mal. Et c'est vrai que j'ai animé avec Michel Porret deux ou trois séminaires sur la figure du mal, notamment la sorcellerie, enfin la sorcière sous l'Ancien Régime. Et puis ensuite, à la fin de mon doctorat, j'ai eu un peu plus de temps, pas beaucoup, mais un peu plus. Et puis ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir travailler sur cette culture populaire, autour du format qui est celui du cinéma, autour de figures qui sont celles des figures du mal, mais de manière générale. Donc si vous voulez, c'est très périphérique à mon sujet d'origine, mais c'est vrai que je travaille plus là-dessus maintenant, puisque le cinéma est un support, un médium, peu importe comment on l'appelle, qui est très très facile à utiliser pour transmettre un savoir, notamment au musée, hein, c'est actuellement ma principale activité. Et puis c'est vrai que mon frère est cinéaste, c'est peut-être la dernière élément de réponse. Et donc comme il est cinéaste, on a beaucoup travaillé ensemble sur ce format cinéma.
Et du coup, ça me permet de faire un peu une suite avec la question suivante qui du coup, cet invisible à la caméra, ce qu'on ne voit pas, nous rend-il plus perméable au sentiment de la peur et joue-t-il dans l'histoire du cinéma une place prépondérante dans la création de l'émotion de la peur?
Est-ce que l'invisible suscite plus de peur
que le monstre qu'on voit à la caméra
Alors, il y a plusieurs traditions du cinéma. C'est clair que moi, je défends plus la tradition du suggestif, un cinéma qui précisément montre moins et suggère plus, avec toutes les ressorts narratifs du suspense, plutôt des années 50-60, où c'est vrai que là, c'est un cinéma qui est effectivement très suggestif, où l'élément du mal est rarement dans le champ, et puis surtout les éléments d'horreur ou les éléments de violence, notamment physique, sont rarement dans le champ. C'est vrai que le passage au gore, hein, pour le dire, c'est-à-dire de montrer à l'écran, disons, la destruction du corps ou les atteintes au corps, c'est quand même une révolution dans le cinéma d'horreur et c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins. Peut-être que je connais aussi un peu moins, mais du coup, je trouve que l'imaginaire est très peu sollicité. On est très atteint, on est très, disons, envahi par l'image, alors que dans le cinéma pré-gore, on va dire, c'est beaucoup, un cinéma qui est beaucoup plus ouvert à nos fantasmes intérieurs, en effet.
Et du coup, ça me permet de tomber un peu sur la question bateau. Si en reprenant la tripartite universitaire, si vous deviez conseiller trois films à nos auditeurs qui veulent frissonner.
Alors celle-là, je ne l'ai pas préparée. Le Masque du démon de Mario Bava, qui est le premier film gothique italien important. Il y en a eu un avant, mais c'est vraiment un film qui est très très important. Je recommanderais quand même le Dracula de Terence Fisher de la maison Hammer comme deuxième film, qui est vraiment un film très important dans le cinéma d'horreur, puisque c'est un des premiers qui montre du sang en couleur à l'écran. C'est pas un film gore, hein, c'est vraiment un film de vampire ancien style. Et puis comme troisième film, je recommanderais quand même un film qui n'est pas un film d'horreur, mais qui est un film très important pour l'histoire du cinéma, qui est Aksan, histoire de la sorcellerie, Witchcraft Through the Ages, je crois. C'est un film muet des années 1920 de Benjamin Christensen, et c'est un film qui a posé l'imaginaire de la sorcière au cinéma. Donc c'est un film qui a une prétention documentaire, mais c'est un film beaucoup plus large que ça. Et je pense que dans tous les films aujourd'hui consacrés à la femme, la figure de la sorcière, on prend des morceaux de ce film, en tout cas en termes de références visuelles. Et c'est vraiment un film qui a un kaléidoscope encore aujourd'hui, qui est vraiment une référence.
D'accord. Je regarde juste Anne, savoir si on peut embrayer sur la suite.
Alors, moi j'aurais quand même une dernière petite question, quand même, parce qu'en tant qu'étudiant en histoire et intéressé en muséologie, qu'est-ce que tu recommanderais comme parcours pour devenir, comme toi, directeur de musée? C'est quand même assez... C'est la classe, quoi.
Je vous remercie. Ce que je peux recommander, c'est d'avoir la foi dans votre passion, déjà, et de faire ce que vous faites ici. Ça participe un peu d'un curriculum ou d'un cursus qui est quand même pas tout à fait classique. L'historien en musée est quand même une rareté, hein, c'est une curiosité. Les musées sont quand même très souvent tenus par des historiens de l'art et les archéologues qui ont vraiment une formation ad hoc de manipulation des objets, de gestion des collections. Comme historien, je vous recommanderais de finir vos études en histoire, donc dans un domaine, voilà, d'une branche thématique, et puis ensuite de quand même de faire une formation en muséologie ou muséographie. À Neuchâtel, à Lausanne, il en existe, à Genève aussi, avec un stage en musée, et puis de défendre aussi que l'historien ne sait pas forcément que manipuler des archives, mais c'est aussi interpréter des objets pour en faire pour tenir un discours sur l'histoire. L'enjeu, c'est de montrer qu'on arrive au fond à sortir du texte et à travailler avec un espace physique et concret, qui est celui de l'objet, qui est celui de l'espace muséal. Et ça, c'est pas évident à tenir, mais je pense que de plus en plus, les historiens sont ouverts à cette question.
Je te remercie pour toutes tes réponses. Merci beaucoup d'avoir pris part à l'interview. Donc Vincent Fontana, directeur du musée d'Yverdon. Je tiens à le dire que vous avez pour l'instant une exposition temporaire sur la question de l'extraction du sel en Suisse. On va pas en dire plus, on va laisser aux personnes le plaisir de la découvrir par elles-mêmes. Elle a été prolongée jusqu'au 1er mai, je dis pas de
Exactement.
Bêtises. Super. Alors, on te remercie beaucoup pour ta
Merci
présence.
Beaucoup.
Merci à vous.
Nous allons continuer avec une chronique, la chronique d'Arthur, qui va nous parler de la modération des réseaux sociaux et surtout des invisibles, de ces petites mains qui se cachent derrière cette modération et qui malheureusement ont à souffrir, avoir tous les maux du monde. Arthur ?
Ils sont invisibles. Ces travailleurs de l'ombre voient ce que nous ne devons surtout pas voir. Une énième théorie du complot, aux prémices acceptables mais aux conclusions fantasques ? Malheureusement non. Un scandale bel et bien réel, impliquant nos réseaux sociaux adorés et la façon dont ils modèrent le contenu qui nous parvient. Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube, Tinder, Mythique, et la liste est encore longue. Toutes ces plateformes en ligne fonctionnent grâce au contenu publié par les utilisateurs, et ces derniers ne sont pas toujours dotés de meilleures intentions. Ainsi, ces entreprises font appel à d'autres entreprises spécialisées dans la modération de contenu en ligne, souvent situées aux Philippines ou au Bangladesh. Évidemment, c'est moins cher, mais pas que, nous le verrons. Revenons tout d'abord aux bases de la modération en ligne. Pour qu'un contenu soit censuré sur un réseau social, quel qu'il soit, il existe deux méthodes. La première est algorithmique. Un algorithme détecte un contenu, image, vidéo, textuelle ou sonore, et détermine qu'il enfreint les fameuses règles de la communauté. Le contenu est placé en quarantaine. La seconde méthode se base sur la vigilance des internautes eux-mêmes et sur le signalement de masse. Si un ou des contenus très similaires sont signalés comme indécents par un grand nombre d'utilisateurs, le contenu est automatiquement placé en quarantaine. C'est une fois les contenus potentiellement sensibles mis en quarantaine que l'affaire se corse, les intelligences artificielles les plus stables de nos jours ne pouvant pas faire certaines nuances que seul un être humain peut faire. Et c'est ici qu'entrent en jeu nos nettoyeurs de l'ombre, nos concierges d'Internet. Ils sont environ 10 000 chez Facebook, moins de 2 000 chez Twitter. Chaque réseau social prétend gérer à sa manière la régulation de contenu. Pourtant, parmi les 150 000 personnes employées comme modérateurs de contenu aux Philippines seulement, les témoignages ont tous quelque chose de similaire. Tous voient défiler à longueur de journée des images choquantes, sanglantes, sexuelles ou encore racistes. Quelques témoignages valent bien toutes les explications du monde. Les voici. Les images apparaissent à l'écran. Je les visionne et supprime celles qui enfreignent les règles. On doit faire disparaître la saleté. On est comme des nettoyeurs. Un autre. Notre rôle est de gérer et de modérer le contenu généré par les utilisateurs. Nous aidons les gens. J'empêche l'exploitation des enfants. Je dois identifier le terrorisme. J'arrête le cyberharcèlement. Les algorithmes ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Un dernier. Je ne savais pas du tout en quoi consistait ce métier quand j'ai commencé ma formation. On m'a expliqué ce que je devais faire, les règles des plateformes et le genre de contenu auquel je devais faire face. Puis, on m'a mise devant un poste et les images ont commencé à défiler. On m'a laissé seul à mon poste effectuer mon travail. Et le pire que j'ai pu voir, c'était, je vous épargne la suite, mais grosso modo, pédopornographie, décapitation et mutilation volontaire d'animaux. Alors pourquoi les Philippines en particulier ? Par tradition, on leur refourguait nos poubelles dans les Trente Glorieuses, pourquoi pas nos cyberdéchets aujourd'hui ? Non, la réalité est un peu moins lyrique. Selon la Direction Générale du Trésor français, les Philippines sont le quatrième pays du monde pour la sous-traitance de services des entreprises. Tout secteur confondu, ce qui s'explique facilement par le fait que le gouvernement philippin offre depuis le début des années 2000 d'immenses cadeaux fiscaux aux startups qui se lancent dans la sous-traitance de données. On observe d'ailleurs, depuis les années 2010, une spécialisation dans la modération d'images et de vidéos plutôt que de textes. Ainsi, un certain savoir-faire ainsi qu'un climat de compétition fertile attirent plus facilement les entreprises occidentales cherchant à faire modérer leur contenu. Mais pourquoi les travailleurs et travailleuses philippins sont-ils si nombreux à vouloir regarder des horreurs défiler sous leurs yeux toute la journée ? Un simple calcul nous l'explique facilement. Le salaire des modérateurs philippins varie de 2 à 6 euros par heure, prenant le minimum 2 euros et calculons pour une journée de 8 heures, 6 jours par semaine, 4 semaines par mois, ça donne 384 euros, soit un tiers de plus que le salaire moyen. Et pour 6 euros de l'heure, ça décoiffe, le modérateur philippin gagnera 400% du salaire moyen. Je n'en dis pas plus, vous l'aurez compris, modérateur de contenu est un job en or aux Philippines. Mais que voient-ils ? Quelles sont leurs directives ? À quelle pression sont-ils soumis ? On distingue, de par les formations des diverses entreprises, trois grandes catégories de contenu à censurer. Le premier étant la pornographie et le contenu à caractère sexuel. Le second étant lié à la censure politique et le troisième étant lié au terrorisme et au groupement terroriste. Sur la pornographie en premier, il existe une règle d'or sur la plupart des réseaux, ne jamais laisser passer une photo de nu, ni poitrine, ni sexe. Ainsi, la majorité des contenus sensibles auxquels les modérateurs doivent faire face sont à caractère sexuel. Des photos non voulues de sexe envoyées à tout va, aux vidéos débats entre deux amants, en passant par la pédopornographie, tout est visionné et censuré par nos nettoyeurs du web. Outre les conséquences psychologiques sur les modérateurs qui se révèlent parfois assez extrêmes, on distingue plusieurs situations où la modération en bulldozer ne passe pas si bien. En 2016, par exemple, une peinture satirique de Donald Trump nu avec un petit pénis est systématiquement censurée et supprimée de Facebook. Qu'en est-il du droit à la satire ? Dans le même ordre, un dessin de presse parodique montrant Erdogan ayant un rapport avec un petit oiseau bleu symbolisant Twitter a été promptement supprimé de tous les réseaux sociaux. Dans un autre domaine, vous connaissez sans doute l'origine du monde du peintre Courbet. Facebook ne veut rien savoir, il censure, peinture ou pas. Ça montre ce qu'il n'est pas convenable de voir. Sur la censure politique, c'est un peu plus subtil, il existe un système qu'on appelle simplement blocage géographique. C'est très simple. Les gouvernements envoient une liste de contenus illégaux selon la loi locale à un réseau social et ce dernier applique les règles dictées sur le territoire souverain du gouvernement en question. Ainsi, le sénateur américain Marco Rubio dénonce « Si critiquer le gouvernement est illégal dans un pays, Facebook peut censurer toute protestation sur ses services dans la zone géographique concernée. Un exemple assez rapide, en Turquie, un drapeau turc brûlé, une carte du Kurdistan ou alors des dessins de presse et des caricatures d'Erdogan ont toutes été supprimées sur le Twitter et le Facebook turc. En Birmanie, un exemple inverse, du contenu appelant à la violence ou montrant de la violence contre la minorité Rohingya n'est absolument pas censuré et peut même être promu via le système de promotion de contenu payant de Facebook. Dernier point, pas des moindres, c'est sur le terrorisme. Et c'est le sujet sur lequel c'est vraiment plus délicat d'appliquer une modération. Il n'y a pas de règles d'or applicables en tout temps, ni de liste de règles fournies par tous les États du monde. Les modérateurs doivent assister à des appels à la haine, des décapitations, des lapidations, des discours racistes, des tortures, des images de guerre, de combats, de bombardements. Et toutes ces images à caractère violent ou qui pourraient être affiliées à un gouvernement terroriste sont visionnées par un modérateur, censurées par ce même modérateur, et qu'importe s'il a confondu des bergers armés de fusils avec des terroristes de l'État islamique. Un des problèmes posés est évident. Les journalistes indépendants ou étrangers dans les pays en guerre font souvent usage des images et vidéos postées par les populations pour documenter la guerre et prévenir les familles, retracer le conflit ou dénoncer d'éventuels crimes de guerre. Ils sont souvent confrontés à la modération bulldozer des réseaux sociaux, rendant l'accès au visuel impossible pour les journalistes. Évidemment, le visionnage de tant d'images affreuses, traumatisantes, souvent dans le cadre de spécialisation, car on devient spécialiste des décapitations, spécialiste des suicides, spécialiste des viols, on ne regarde que ça à longueur de journée, n'est pas sans conséquence pour les modérateurs, comme mentionné un peu plus haut. En plus de ces conditions de travail relevant plus d'une chimère entre Saad et Kafka qu'un rêve environnement de production, gare à ceux qui se trompent. Et je recite à nouveau, on n'a pas le droit à l'erreur. On nous dit que la moindre erreur pouvait coûter une ou plusieurs vies, donner lieu à du harcèlement, pousser quelqu'un au suicide ou même déclencher une guerre. Mais on peut ignorer sans le vouloir ou par fatigue une de ces vidéos. Et si le contrôle qualité s'en rend compte, c'est tout de même compté comme une erreur. Je n'ai droit qu'à 3 erreurs par mois, sinon je suis viré. Dans l'enquête, on apprend juste après ce petit témoignage que la moyenne du temps de décision pour une image est de 6 secondes. Par peur de ces erreurs, justement, certaines situations forcent des modérateurs à assister à des scènes en direct auxquelles ils n'ont pas le droit de mettre fin. Un modérateur raconte comme il a dû assister impuissant au suicide par divers moyens de plusieurs personnes sans rien pouvoir faire. L'exemple en question, une vidéo en direct d'un jeune homme hésitant à se pendre et le modérateur doit regarder le live et n'a pas le droit de l'interrompre ni de le censurer tant que la personne ne s'est pas effectivement suicidée ou blessée. Ce serait considéré comme par ses supérieurs comme une faute professionnelle. Ainsi, irrémédiablement, ce qui doit arriver arrive toujours et plutôt que de vous faire une petite analyse sortie de ma poche, je vous propose de finir cette émission sur le court témoignage d'une modératrice de Manille. Nous étions proches, lui et moi. J'ai été inquiète quand il n'est pas venu au travail et j'ai voulu savoir pourquoi. Il s'est pendu, mon collègue s'est pendu. Quand je suis arrivé chez lui, je l'ai trouvé déjà mort. Il était spécialisé dans les vidéos d'automutilation en direct. Les voilà, les effets secondaires de la modération de contenu. L'entreprise a étouffé l'affaire et a gardé ça secret. Business as usual. Facebook, Twitter et YouTube n'ont à ce jour pas fait de commentaires sur le sujet. Si le sujet vous révolte, vous intrigue, vous intéresse ou vous rend sceptique, je vous invite à approfondir au moyen de 3 sources. Premièrement, un long documentaire réalisé par Republica et disponible sur Arte, intitulé « Les nettoyeurs du web ». Secondement, l'enquête du magazine américain Wired, disponible en ligne sur leur site. Et dernièrement, pour les plus assidus, l'étude de la professeure Sarah T. Roberts pour l'université de Yale, « Behind the Screen ». Merci de votre attention et bonne soirée à vous.
Merci beaucoup Arthur. Alors en effet, pour une chronique, tu m'as dit que ce serait glauque. Non. Eh bien, c'était bien en effet glauque.
C'était prévenu.
Voilà. Bah, je te remercie en tout cas de mettre en lumière ce travail qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Le monde a bien changé et aujourd'hui les fausses sceptiques, elles sont malheureusement pas que sous les maisons, elles sont aussi dans nos ordinateurs. Et on a une bonne pensée pour toutes ces personnes qui malheureusement doivent s'en occuper. On va clore ce sujet-là et on va rentrer sur le prochain. Donc, on va discuter un peu de nos podcasts, mais je vais laisser la parole à Laure.
Oui, parce qu'effectivement, nos deux animateurs ici ne sont pas qu'animateurs, ils sont également podcasteurs. Et à l'occasion du festival Historicité, ils ont créé ensemble un podcast de 45 minutes, il me semble. Est-ce que vous pourriez me présenter de quoi ils parlent ?
Alors, c'est un podcast de 30 minutes et l'autre de 15 minutes. Donc, ensemble, ça fait 45 minutes. On peut voir ça comme ça. Mais à ce moment-là, si on coupait la poire en deux, ça ne mettrait pas vraiment en valeur tout le travail fourni par Pierre, qui a fait quand même le double de temps que moi. Alors, Pierre, tu veux commencer ?
Oui, écoute, je pourrais présenter un peu le fil conducteur qu'il y a eu derrière le podcast donc, qui est sur Mesmer et le magnétisme animal. Donc, une invention du 18e siècle autour de 1700, dans les années 1780, où l'Autrichien Mesmer va créer son flux qui permettrait de soigner les malades et de résoudre les grands maux.
Tu dis créer, mais il l'a découvert.
Il l'a, oui. Alors ça, c'est évidemment, ça c'est mon biais de regard contemporain, mais à l'époque, non, il a découvert l'existence du flux. avec des procédés scientifiquement discutables, mais à l'époque, ça ne choquait personne. Et du coup, le but de mon podcast était d'interroger et de tenter de faire converger une réflexion autour de la médecine moderne qui débutait au XVIIIe siècle, et aussi cette médecine des invisibles où on va utiliser des forces mystiques, des forces ésotériques pour tenter de soigner nos maux, autant physiques que cérébraux.
Et toi, Stan ?
Alors, le mien, ça ne va pas parler du tout de médecine, en fait, mais on reste quand même dans le thème des ésotériques. Moi, j'ai écrit mon podcast, en fait, en m'appuyant principalement sur un livre que j'ai découvert à la ville de Genève. De base, je voulais écrire un podcast sur les almanachs, l'almanach en tant qu'objet. On était un peu parti là-dessus. Mais finalement, j'ai découvert l'almanach kabbalistique pour 1850, coécrit par Gérard de Nerval et Henri Delage. J'ai découvert ce livre-là et je l'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est en fait un traité, ça commence par un espèce de calendrier avec plein d'informations assez utiles pour tout ce qui est science occulte. Ça continue avec un petit traité qui décrit de nombreuses sciences occultes. Et ça continue avec des prophéties. Enfin, vraiment, c'est un livre qui est passionnant. Aujourd'hui, si on est un peu sceptique, on le lit avec le sourire au coin de la lèvre. C'est principalement ce qui m'est arrivé. mais j'ai vraiment apprécié donc, ce livre-là et j'ai décidé qu'il fallait en parler, en fait. Parce que les sciences occultes, on en parle encore aujourd'hui. L'astrologie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement répandu toujours aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir la manière dont on en parlait il y a 150 ans. Où on n'avait pas justement cependant des sciences dures. Enfin, ça commençait à se développer. Newton avait quand même déjà parlé de la gravité. Ça faisait déjà 100 ans à peu près. Il fallait justement parler de la manière dont l'occultisme en fait s'est développé au 19e siècle. Et selon moi, cet almanach de 1850 représentait vraiment bien cette mouvance occulte qui a autant partagé le 19e siècle.
Et je pense que je peux rebondir dans quelque chose qui n'était absolument pas prévu sur ce que tu disais. En même temps, Newton défend aussi la théorie de la Terre sur laquelle Mesmer se base pour pouvoir expliquer l'existence de son fluide.
Et Newton était extrêmement croyant aussi. L'un et l'autre vont de pair, et c'est justement ça qui est intéressant. Voilà, surtout à ces périodes.
Très bien. Alors, comme vous le savez, le thème du festival qui va nous accompagner pendant ces 3 jours est l'invisible, plus exactement les invisibles. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi vos podcasts s'inscrivent dans ce thème-là ?
Alors oui, nous, on a eu une approche un petit peu différente, on dira, du trend principal de l'invisibilité dans l'histoire, des minorités qui sont invisibilisées. Et nous, on a plutôt vu l'invisible dans son sens ésotérique, dans son sens occulte, dans son sens de ces espèces de forces mystiques que certains gourous, que certains penseurs ont pu convoquer. Et dans la croyance que les gens ont dans la véracité de ces différentes notions des invisibles et de ces liens qu'on peut créer et qu'on peut trouver. Et aussi, c'est ainsi qu'on s'est penché, on dira, sur cette médecine du XVIIIe siècle, puis sur l'almanach kabbalistique que Stan a un peu découvert comme un trésor au fin fond de la bibliothèque de l'Université de Genève. Et on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir créer ainsi un lien un petit peu original dans la programmation du festival. On en a parlé à Sébastien qui nous a gentiment poussé à l'exécuter et à rendre ce podcast réel.
En parlant de liens d'ailleurs, quels sont les liens entre vos deux podcasts ?
Alors, les liens, justement, je pense que c'est le plus intéressant. Parce que, donc, toi, tu étais vraiment assuré de ta thématique. Donc, Pierre, tu étais vraiment assuré de ta thématique, le magnétisme. Tu avais déjà commencé à écrire, travailler dessus, te renseigner. J'étais encore en train de me renseigner sur les almanachs avant de trouver. Donc, c'est vraiment. Je suis tombé sur ce livre de manière vraiment un peu sérendipitaire. Et je suis tombé dessus. Et c'est là j'ai commencé à le lire. Et évidemment, ça parlait d'occultisme. Évidemment, ça a un almanach kabbalistique pour 1850, ça a parlé d'occultisme. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est les références, en fait. Les références de mon almanach étaient, d'un certain sens, les références aussi de Mesmer, les références... Tout ça rentre dans une grande mouvance. Mesmer a réellement inventé une science occulte, il l'a créée de toutes parts, mais en soi, il s'est énormément appuyé sur des travaux précédents, sur des travaux kabbalistiques, et on peut revenir aussi au fait que, par exemple, dans mon almanach, dans le traité des sciences occultes qui définit 5 sciences occultes différentes, évidemment le magnétisme y est décrit.
Super. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour conclure ce podcast avant d'annoncer le reste du programme ?
Alors oui, nous, on peut peut-être un petit peu juste un mot sur une des volontés qui était dans la création du podcast derrière et qui était une approche narrative. Donc on voulait un petit peu sortir du carcan du podcast universitaire classique qui ressemblerait en fait à une conférence ou à un cours plus ou moins magistral reprenant les codes universitaires. Et on a voulu proposer une mise en abîme, un peu une plongée où le but c'était de faire vivre une histoire à l'auditeur. Et du coup, ça a donné l'histoire, en tout cas pour le podcast dont je me suis occupé, l'histoire d'un père qui a sa fille qui est malade, très malade, et qui va faire en fait appel à un magnétiseur pour tenter de soulager ses douleurs. Et c'était un moyen en fait de pouvoir plonger l'auditeur dans quelque chose d'un peu abstrait, parce que forcément le magnétisme, les trans magnétiques, les historiens en parlent, mais ils en parlent toujours avec une certaine distance, et évidemment on n'a pas de témoignage direct de qu'est-ce que les gens ressentaient. Donc c'était un peu la partie qui permettait une certaine liberté de s'imaginer qu'est-ce qu'une personne là-dedans pouvait ressentir lors d'une transe magnétique, voire d'une transe à plusieurs, lors d'une cérémonie du baquet. Évidemment, je vous invite à écouter le podcast si vous voulez en savoir un petit peu plus.
Et moi, de mon côté, c'était donc le podcast narratif, ce que j'ai vraiment apprécié en fait. C'est déjà le livre que j'ai présenté, l'Almanach Kabbalistique, a été coécrit par Gérard de Nerval d'un côté et Henri Delage. Donc Henri Delage, il est beaucoup moins connu que Gérard de Nerval, mais il a aussi un style qui est très romantique, très 19e. Et j'avais envie en fait d'inclure ce texte. Je voulais pas juste en parler, je voulais le laisser parler. Et c'est ce que j'ai vraiment adoré, c'est de lire ce texte, de me plonger dedans et aussi d'espérer en partager un peu avec les auditeurs.
Très bien, alors je crois qu'on va passer à la suite du programme.
Et oui, je reprends l'antenne et c'est moi qui vais clore cette émission. Alors, c'est tout pour nous, cette émission est finie. Mais je vais tout d'abord vous annoncer le programme, tout ce qui va se passer à Uni Dufour demain. J'espère que vous viendrez nombreux. Donc tout d'abord, à 17h, on va reprendre cette émission. Cette fois-ci, ça sera Laure qui s'occupera de l'animation. On aura une interview de personne qui gère le projet sans elle, donc ça va être super intéressant. Et d'autres chroniques, évidemment. Je vous invite tous à venir nombreux pour voir tout cela. Et je vais vous parler un peu de ce qui va se passer à Uni Dufour. Pour tout le reste du programme, je vous propose d'aller voir sur le site web. Il y a aussi des choses qui se passent à Lausanne et aussi, par exemple, à l'Institut Voltaire et d'autres endroits. Mais donc, la journée débutera avec une table ronde à midi et quart sur le dur combat que les femmes durent faire pour avoir accès aux hautes études à Genève. À la même heure, la librairie historique sera animée d'une discussion sur le projet Sans Elle, qui a pour but de rendre aux femmes leur place dans l'espace public. À 17h, le vice-recteur de la Fondation Martin Bodmer donnera une conférence nous invitant à découvrir un pan méconnu de l'histoire des bibliothèques. À 18h, Olivia Rosenthal nous présentera une lecture musicale de son roman « L'éloge des bâtards ». À 18h30, une conférence sera donnée concernant l'occultation des pollutions industrielles en Suisse et une autre conférence sera donnée à la même heure sur la précarité à Genève. À 18h, à notre place, donc ici au Ré du Nid du Four, vous trouverez VO, l'émission cinéma du campus et finalement à 20h, la soirée se clora avec la projection du film « À pas aveugle » que je vous conseille de voir. Je ne vais rien spoiler, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez lire le programme. Et pour tous ceux qui sont venus ici, je vous invite à vous rendre à la salle U600 après notre émission à 18h. La soirée d'ouverture sera assurée par Madame Patou Matisse qui nous parlera de l'invisibilisation des femmes dans l'étude de l'évolution humaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je remercie Pierre, Arthur, Lucien et Vincent qui sont partis, mais surtout Laure qui était à la technique. Merci à tous.
Merci à toi.
Bonne soirée.